On va débuter avec un micro qui fonctionne très bien. Normalement, vous avez le meilleur des deux. Donc, on reprend cet après-midi avec la seconde table ronde dont le sujet est 20 ans après la loi de 2005, faire un état des lieux justement sur l'accessibilité, sur le pendant numérique, bien évidemment. Et on va parler plus précisément de l'accessibilité des outils et de la médiation numérique pour les personnes en situation de handicap, ce qui nous permettra d'ouvrir les travaux de l'après-midi. Pour parler donc de ce sujet, nous avons avec nous donc, deux intervenants en présentiel et un intervenant à distance de suite. Sans plus de transition, je vais vous demander de vous présenter et j'introduirai après le sujet de la table ronde.
Bonjour, je suis Audrey Manez, je suis co-gérante chez Access 42. On est une société spécialisée en accessibilité numérique, donc on fait ce qu'on appelle des audits de conformité. On évalue les sites web et les applications mobiles par rapport à des normes, des règles d'accessibilité numérique. Et on a plein de projets autour de ça. On a par exemple aussi développé des certifications de compétences pour essayer un peu de professionnaliser notre métier. Et on s'intéresse aussi plus précisément aussi aux utilisateurs, on y reviendra je crois à un moment, et on développe aussi des tests utilisateurs, des tests avec des personnes en situation de handicap sur l'interface numérique.
Merci. Pierre-Olivier.
Oui, merci Nicolas. Bonjour à tous, donc je m'appelle Pierre-Olivier Comin et j'occupe la fonction de directeur adjoint pour le Cap Emploi Land des Pays Basques et le Cap Emploi Lot et Garonne. J'y reviendrai extrêmement succinctement au démarrage de votre première question pour vous présenter dans ces grandes lignes qu'est-ce que Cap Emploi et comment on œuvre dans le cadre de l'inclusion, notamment numérique.
Merci. Et donc comme c'est un événement aussi sobre en termes numériques, du coup on a un intervenant à distance, Guillaume, si tu veux te présenter.
Bonjour, Guillaume Adjuma, je suis directeur de l'association de Comprovence qui est basée à Marseille. Désolé de ne pas être présent avec vous, mais c'est facile de monter en France, c'est plus compliqué d'aller de la droite à la gauche. Un calaire pour rien. Donc, Comprovence, c'est une association qui a 20 ans maintenant et qui est un centre de ressources autour du handicap et du numérique, des nouvelles technologies de manière générale. Et je vous présenterai un petit peu plus en détail les activités tout à l'heure.
Merci. Alors, du coup, pour introduire cette table ronde, rappelez que en février 2005 était promulguée la loi pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Donc c'était il y a 20 ans. Ce qu'elle pose notamment, c'est elle rappelle le fait qu'il y a un devoir de solidarité dans la collectivité nationale et que tout le monde a le même accès, le même droit à accéder à ses droits fondamentaux et à un plein exercice de sa citoyenneté. En fait, ce que pose cette loi, alors après on y reviendra dans les détails, mais c'est qu'il faut effectivement veiller à ce que tous les pans de la société puissent bénéficier parfois d'outils de compensation pour permettre à tout le monde de bénéficier pleinement, de jouer pleinement la citoyenneté. Le numérique, du coup, avec sa place prépondérante, ne fait pas exception à ces questions-là. Et on va voir effectivement qu'il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Est-ce qu'aujourd'hui les outils de compensation sont à la hauteur des enjeux? Est-ce que en termes de médiation et d'accueil des personnes, est-ce qu'on a les compétences nécessaires? Et enfin, est-ce que les services tels qu'ils sont conçus, réfléchis, est-ce qu'ils sont conçus pour permettre à chacun d'en bénéficier? Donc voilà, c'est sur cette heure qui va venir, on va proposer un état des lieux de la loi. Alors, on va commencer avec d'ailleurs un rappel du coup de ce que posait la loi. Pierre-Olivier, on vous a demandé si vous vouliez bien prendre cette lourde responsabilité. effectivement, on va peut-être, avant de commencer par le rappel, déjà de commencer vraiment par la base, avec un rappel de la définition du handicap et peut-être déconstruire quelques représentations qu'on peut en avoir.
Je vais y arriver à cette déconstruction, ou en tout cas préciser. Je démarrerai par vous repréciser, parce qu'avant d'y travailler, ça fait maintenant 16 ans pour ma part, je ne connaissais pas du tout les services de Cap Emploi, donc je vais juste faire en 30 secondes qu'est-ce que c'est Cap Emploi. On est un opérateur du service public de l'emploi et notre mission principale est d'accompagner les personnes en situation de handicap et les employeurs vers et dans l'emploi. Donc on intervient à tout moment des parcours professionnels, qu'on soit demandeur d'emploi ou salarié, dès lors que se pose le sujet santé, inadéquation de la santé et de l'emploi. Voilà pour la rapide présentation. Et pour revenir donc à la loi, Cap Emploi est directement ou indirectement le fruit d'une des lois, et je voudrais pour démarrer faire un petit pas de côté et nous ramener à la création de la sécurité sociale. Mais vous allez voir, je vais nous amener quand même en 2005 à l'accessibilité universelle et numérique. En fait, c'est vraiment pour montrer, puisque la question c'est sur les 20 ans de la loi, je trouvais intéressant de repositionner en fait l'évolution législative française qui nous amène aujourd'hui aux 20 ans, donc après la loi de 2005, jusqu'en 1946, création de la sécurité sociale, et tout le système français est plutôt dans une logique de réparation, de dédommagement des mutilés de guerre, des blessés de guerre. Donc on est vraiment dans cette logique de prise en compte des personnes avec des handicaps, et progressivement, au fil des décennies, on commence à se dire on va arrêter de les dédommager, on va arrêter de réparer, et on va progressivement passer dans une logique d'insertion. Dans les années 70, avant d'en arriver en 2005, on a une loi qui a favorisé l'insertion professionnelle, la formation professionnelle. Après, on a une loi en 87 qui commençait à poser les bases d'une obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés. Ça a été aussi la création d'un fonds qui s'appelle l'AGFIP, qui est un de nos financeurs. Avant d'arriver, donc en 2005, on est vraiment passé d'une logique réparation, dédommagement, handicap égale mutilation, blessure, à 2005 où on est plutôt sur une approche accessibilité universelle et la définition du handicap qui a été posée. D'ailleurs, on peut s'en gargariser, mais en tout cas s'en féliciter. La France est le seul pays en Europe, ou a été le premier en tout cas, à poser une définition de qu'est-ce que le handicap. Cette définition, dans ses grandes lignes, elle précise que le handicap, en fait, c'est une limitation d'activité ou une forme de restriction de participation à la vie et à la société, en société, à cause d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions. Donc en 2005, on vient poser en France que la situation de handicap, c'est l'interaction entre une personne et un environnement inadapté. Vous entendrez systématiquement parler de personnes en situation de handicap. On est bien dans un environnement donné. Et donc, pour arriver à la réponse à la question que vous me posiez, on n'est pas forcément en fauteuil roulant. Alors oui, c'est possible, mais pas forcément. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour un certain nombre d'entre vous, mais 80% des handicaps sont invisibles. Le service Cap Emploi, pour la partie que je connais, Land Pays Basque, on accompagne 3000 personnes. 2% d'entrées sont à mobilité réduite et en fauteuil roulant. Ça signifie quoi ? Ça signifie que dans cette salle, statistiquement, il y a des personnes en situation de handicap au sens de la loi, des personnes qui peuvent avoir une maladie chronique évolutive, des choses un peu costaudes comme des scléroses en plaques, comme des cancers, mais ça peut être aussi, dans un environnement donné, compliqué d'avoir de l'asthme, d'avoir une allergie, d'avoir un diabète. Tout ça peut être intégré donc, dans cette définition qu'a posée la loi en 2005. Ce qui ne nous a pas aidé, ce qui ne nous aide toujours pas d'ailleurs, c'est la signalétique. Quand vous vous garez, là on s'est garé, qu'est-ce que vous avez vu au sol ou sur le panneau? C'est un fauteuil. Donc forcément, dans les représentations et les légendes urbaines, le handicap est très souvent assimilé à des personnes à mobilité réduite en fauteuil, puisque si on devait parler de déficience motrice, on pourrait parler de problèmes d'épaule, de genoux, de côte, de coude, de cervicale, beaucoup de types de déficiences motrices, pas forcément de personnes en fauteuil roulant. Donc, en France, la stat, 14 millions, c'est des statistiques du ministère du secrétariat d'État en charge des personnes en situation de handicap, j'ai préparé cette intervention. 14 millions de Français seraient en situation de handicap, déclarés ou pas. Ce sont les stats nationales qui sont posées par l'État. Soit vous étiez meilleur que moi en mathématiques, plus de 10% de la population active française. Et j'ai envie peut-être, non pas en conclusion, mais en ouverture, de faire un lien assez fort finalement entre Le handicap invisible et l'invisibilité aussi des obstacles numériques pour les personnes en situation de handicap qu'on ne voit pas, ou en tout cas pas de prime abord, et qui sont un vrai frein à l'accessibilité universelle.
Merci. Pour le coup, dans la continuité, on est arrivé à 2005, et avec l'arrivée de cette loi. Du coup, qu'est-ce qu'elle prévoit, cette loi, en synthèse, et en quoi est-ce qu'elle offre un cadre justement pour les personnes en situation de handicap ?
Elle est fondamentale, elle est fondatrice. Alors, je l'ai dit, elle intervient après un long parcours législatif et une évolution de la société française. Deux choses à retenir pour la loi de 2005. Un, c'est un droit à la compensation pour tous et à tout âge. Et le second, c'est l'objet de cette table ronde, c'est le principe d'accessibilité universelle. Ce sont les deux points fondamentaux et socles de cette loi. Tout domaine de la vie et à tout âge. Des domaines que je ne maîtrise pas, mais pour autant qui sont bien ancrés dans votre quotidien, dans notre quotidien. L'école inclusive, ça a démarré petit à petit. Oui, c'est largement perfectible, et on n'est pas là pour parler de ce débat, mais ça a vu, 2005, l'arrivée, la professionnalisation d'AVS, donc d'aide à la vie scolaire, d'AESH. Oui, il n'y en a pas assez, mais ça a démarré là. C'était un fondement de ces évolutions. Et après, toutes les questions un peu plus bâtiment, transport, logement, et la question du numérique était embarquée dès 2005. Bon, ça fait 20 ans, on y reviendra après. 2005, il y a aussi eu la réaffirmation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Petite piqûre pour ceux qui l'ignorent, tout employeur, qu'il soit privé ou public, qui a 20 salariés et plus, doit avoir, c'est la loi, 6% de personnes en situation de handicap. Lorsque cette obligation n'est pas atteinte, il doit, l'employeur, s'acquitter d'une contribution financière, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot amende, pour venir dire « oui, je suis en règle avec la loi ». 2005, un mot également rapide, création des maisons départementales des personnes handicapées. Et c'est en ce sens que c'est important vraiment de se dire que 2005, c'était une loi fondatrice sur tout un tas de choses, puisque la MDPH va être le guichet unique pour toutes les demandes, va être le lieu où les professionnels, les familles vont pouvoir aller faire des demandes, trouver des réponses et avancer. Le sens de la loi, il ne va pas s'arrêter à la création de tous ces outils, tous ces acteurs, tous ces opérateurs, tous ces bâtiments en fait. Elle a vocation à nous projeter avec un peu plus de maturité au niveau collectif, j'entends. Ça nous interroge nous tous sur notre responsabilité collective. Comment est-ce qu'ensemble on s'adapte aux personnes qui ne peuvent pas accéder aux services, à l'information? C'est bien ça qu'elle nous pose en fait. Nous sommes des sociétés modernes, enfin je l'espère, un peu développées quand même. Et ça nous interroge sur collectivement comment est-ce qu'on accueille et comment on rend accessible l'ensemble des informations. Par exemple, on ne s'arrête pas, j'ai noté un petit exemple qui m'a fait sourire en préparant. C'est pas forcément qu'un trottoir qui n'est pas abaissé, un escalier sans rampe, mais c'est aussi, et on arrive au sujet du jour, un site internet qui est incompatible avec un lecteur vocal, où c'est une vidéo qui n'est pas sous-titrée. C'est de ça dont on parle, et avec la démultiplication des supports numériques, ça devient fondamental pour permettre en fait l'accès à toute cette information et aux services.
Bon, du coup vient assez naturellement la question fatidique, centrale. Quel état des lieux, enfin centrale au moins, voilà, de votre point de vue? Alors ça peut être un point de vue subjectif, bien évidemment,
très subjectif,
tout bien évidemment. Mais voilà, quel état des lieux est-ce que vous tirez du coup de l'application? Est-ce qu'on est au bout du chemin? Tout a fonctionné, ou est-ce qu'on a encore un peu de boulot?
C'est pour ça que je trouvais important en fait de repréciser qu'on part de 1946, parce que je pense qu'on est, enfin ça introduit ma réponse, on est au milieu du guet, il ne faut pas s'arrêter. Donc le bilan, il est plutôt favorable, mais il reste quand même contrasté. C'est une réponse de Normand, même si on est dans les Landes. Il y a eu des avancées indéniables, quand même. On l'a cité, enfin je l'ai cité rapidement, mais l'inclusion, elle progresse, les mentalités aussi, on en parle, on en parlait pas, on c'était ça, on les cachait. Non, on les mettait dans des institutions cachées dans la forêt ou en haut de la colline. Bon, tout ça, quand même, on commence à en parler, à accepter la différence, la diversité. Preuve en est, par exemple, aujourd'hui, que vous abordiez ce sujet, cette thématique. Dans les progrès, on l'a cité, donc la scolarisation, l'emploi, parce que c'est quand même un sujet qui m'importe, l'emploi progresse, mais si je dois reprendre, oui, on doit continuer à s'améliorer. On a aujourd'hui un taux de chômage pour les personnes en situation de handicap qui est deux fois celui du tout public, une durée d'inscription qui est environ 60% supérieure à un demandeur d'emploi qui n'est pas en situation de handicap. Donc on est encore largement perfectible, mais on progresse favorablement. On a des acteurs qui sont repérés, on a le Cap Emploi, on l'a dit, on a la MDPH. Il y a maintenant dans toutes les institutions ou un bon nombre d'institutions des référents handicap qui se professionnalisent. Il y a des diplômes universitaires qui se sont montés pour professionnaliser ces référents handicap. Donc ça veut dire qu'on embarque la question de l'accueil, du transmission de l'information. Tout ça, c'est quand même positif. Pour autant, puisque on doit quand même, enfin je trouve qu'il serait indécent de dire que tout est rose. Hein, on doit continuer à s'améliorer. Il y a quand même un décalage entre les principes dont on a parlé qui sont affichés et la réalité qui est vécue par les personnes elles-mêmes. Et peut-être pour conclure sur cette partie accessibilité numérique et puis enchaîner sur du pratico-pratique, on a longtemps considéré que l'accessibilité numérique, en tout cas en 2005, c'était optionnel. Quand vous parlez aux collectivités, on parlait ma rampe d'accès pour aller chez le coiffeur, la rampe d'accès pour aller à la mairie, on les voit, les salles d'effets sont toutes adaptées. Et donc, on a vraiment mis en deuxième, troisième, voire quatrième intention, si tant est qu'il y en avait l'intention, l'accessibilité numérique. Mais vraiment. Donc ça s'intègre petit à petit, on est un peu en retard. Après, j'ai vu qu'il y avait aujourd'hui des stands et il y a eu des tables rondes sur l'intelligence artificielle. Donc toutes ces évolutions technologiques, elles vont permettre de rattraper le retard. Elles ont commencé d'ailleurs, mais on est quand même un peu en retard. Aujourd'hui, exclure du numérique, c'est exclure en fait de certains droits ou empêcher l'accès à certains droits, à la santé, à l'information, sur l'emploi aussi. Je ne sais pas si quelqu'un de France Travail aujourd'hui, mais si vous voulez vous inscrire aujourd'hui, tout est sur l'ordi. Tout est sur l'ordi où il faut téléphoner. Donc c'est vraiment extrêmement compliqué. Donc on ne peut pas exclure du numérique aujourd'hui un citoyen, sinon on exclut tout simplement de ses droits fondamentaux, comme nous tous ici. Donc il y a un besoin de monter en compétence collective pour mieux repérer malgré tous nos progrès. On avait un petit mot avant de démarrer en fait. Moi le premier, on a eu une intervention il n'y a pas très longtemps d'un gros constructeur informatique qu'on a tous ou très, très nombreux sur nos ordinateurs. J'ai pris conscience en fait que j'avais une méconnaissance des outils d'accessibilité que je pouvais utiliser et mettre à disposition des publics qu'on accompagne. Donc là aussi, on a un progrès, moi j'ai un progrès à faire professionnellement, individuellement, d'acculturation sur qu'est-ce qui existe en fait pour pouvoir en parler à ceux qui sont peut-être un peu plus éloignés de ces solutions techniques. Donc collectivement, on a aussi à progresser pour favoriser l'accessibilité numérique des autres. Il n'y a pas que le lecteur ou le RGA ou tous les autres. Il y a aussi nous individuellement en tant que citoyens.
Ben, merci. En plus, la transition est toute trouvée, c'est parfait.
Comme à la répétition.
parce qu'effectivement, on va parler des outils de compensation, notamment, et de la question de la médiation numérique. Donc, Guillaume, pour le rappeler, donc, l'association que tu représentes, donc, tu es directeur général, et tu es lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt outiller la médiation numérique, notamment pour une formation à la médiation numérique. Mais cette association, en fait, elle ne commence pas avec cette AMI. Elle a une histoire avant que tu peux nous expliquer qui, du coup, justement, fait sens par rapport à cet engagement.
Ah, pour expliquer un petit peu la genèse de Pico Provence, qui est, on n'est pas unique en France, on va dire on est 4 ou 5 structures à peu près équivalentes. Il n'y en a pas dans notre secteur pour le moment. Nous, on est vraiment parti c'est des ergothérapeutes sur le terrain. Qui, il y a 20 ans, 30 ans, ou c'est 24 ans à peu près, se rendent compte que les nouvelles technologies allaient être un avantage incroyable pour les personnes en situation de handicap, pour qu'ils puissent gagner en autonomie, mais que cette nouvelle technologie dit évolution rapide, et que les ergothérapeutes, les professionnels de l'autonomie, n'ont pas un temps de veille incroyable, et donc il faut arriver à courir après les dernières innovations pour pouvoir ensuite conseiller son patient. Parce que quand un usager en situation de handicap veut pouvoir profiter de nouvelles technologies, il faut aussi que son professionnel de santé qui l'accompagne soit formé, sache que ça existe et sache le paramétrer utilisé. Or, pour l'instant, dans le champ d'études, ce n'est pas encore intégré. Ça commence progressivement, c'est lent, ça varie progressivement. Mais du coup, il y a besoin de centres ressources qui permettent de faire ce temps de veille et ensuite d'informer les professionnels. Et e-Comprovence a la particularité d'être né en même temps que le mouvement de la médiation numérique. Donc il y a à peu près 20 ans, en tout cas en PACA. Et très vite, on a voulu faire les deux en même temps. Donc on a un pôle d'ergothérapeute. Donc pour rappel, les ergothérapeutes sont des professionnels de l'autonomie, sont des professionnels de santé qui sont là pour accompagner un usager en situation de handicap, soit par de la rééducation, soit par de l'aménagement de son environnement, qui gagne en autonomie. Et en même temps, on a ce pôle de médiation numérique. On a vu que les deux fonctionnent, c'est-à-dire l'ergothérapeute va suivre l'usager en situation de handicap, va regarder quel matériel il a besoin, quel paramétrage qu'on a dans l'ordinateur, etc. Et ensuite, une fois que ça s'est installé, elle transmet vers le médiateur numérique qui lui va enseigner les petits usages et entraîner la personne avec ses aides techniques. Alors le truc, c'est qu'une aide technique numérique, c'est pas forcément connu. Alors, je pense qu'on a tous l'habitude de voir un PC comme bah, il faut apprendre le clavier, la souris et son écran. La réalité, c'est que le numérique, c'est beaucoup plus divers que ça. Il y a beaucoup d'autres portes d'accès, mais elles sont un peu moins identifiées. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous en montrer à peu près 4. On va aller du plus simple au plus compliqué. Et par main levée, bon, je précise ce que je ne vois pas, donc je compte sur mes collègues pour dire combien de personnes vont lever la main. Vous allez essayer de savoir à quoi ces choses peuvent servir. Donc on va commencer par le plus simple, ce truc. À votre avis, à main levée, qui peut dire à quoi ça sert?
Alors, là pour le moment, quatre mains levées sur une assemblée qui doit faire 45-50 personnes. Allez, 45. Je suis un garçon optimiste, je veux dire 50.
Donc 10% de ça, qui te fait un bon score.
Est-ce que l'un des quatre veut donc du coup le dire?
C'est pour jouer à Pac-Man.
Alors, on m'a dit que c'est un joystick pour jouer à Pac-Man. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse. C'est une souris, me dit-on.
Et il refait un portement. C'est basé sur la même chose, hein. Effectivement, c'est un joystick. Alors, c'est pour la personne qui a des difficultés motrices, donc notamment, plutôt qu'utiliser une souris, il va pouvoir utiliser ce joystick pour contrôler le curseur. Mais ça, c'est relativement simple parce qu'on voit tout ça à peu près à quoi ça ressemble. Effectivement, on a déjà vu le bord d'arcade, donc on se doute de l'utilisation. On a un poil plus compliqué. À votre avis, ceci, ça sert à quoi?
Là, effectivement, j'ai pas de main. Si quelqu'un a une idée, levez la main. Si, j'ai deux personnes qui lèvent la main. Alors, Paul Chica, une conseillère numérique landaise, me dit une souris à activer avec sa tête.
Ah, plus précisément?
Avec le menton, me dit la salle.
Exactement. On pose son menton ici. Bon, moi, il n'est pas paramétré pour moi, donc ça ne marchera pas. Mais en gros, on peut cliquer, hein, on bascule dans la tête d'un côté ou de l'autre. Et on peut bouger le menton, ça bouge aussi le curseur de la souris. Bon, ça pourrait être compliqué. Parce que je peux cliquer parce qu'il n'est pas à la tête.
Alors, j'ai deux personnes. Hein. Avec Claire, on me dit tout au fond, il y avait deux mains levées pour te donner un état des lieux du taux de réponse, et on me dit pour activer avec l'air, pour le manipuler avec l'air.
Alors, pas que, il y a le son, il y a aussi le mouvement de la tête. Donc, on bouge le curseur de la souris avec le mouvement, et ensuite on clique en soufflant. Et le dernier, bon, c'est pas très visuel, mais s'il y a des experts dans la salle, hop, on va dire à quoi ça peut servir, ceci. Il pose sur le plan, sur les
pattes. Ah, si, j'ai une main levée. Alors, on me dit ice tracking, le mouvement des yeux.
Ah, non, mais l'expert dans la salle,
on avait qu'une seule, on avait qu'une seule réponse, mais voilà, il a gagné des applaudissements.
Donc c'est de la commande oculaire, c'est pour prendre le contrôle de son curseur via le mouvement des yeux. C'est un exercice que je vous invite à faire un jour, c'est assez amusant mais très fatigant. Donc voilà, ça ce sont des aides techniques. C'est assez comment dire, c'est assez visuel. Dès qu'on voit quelqu'un utiliser ce type de dispositif, on se dit ok, on voit qu'il y a une situation de handicap, on comprend la chose. 90%, on a dit qu'on parlait de tout à l'heure de handicap invisible, 90% des aides techniques autour du numérique sont de simples paramétrages. Donc, vous avez tous déjà en fait manipulé des formes d'aides techniques. Je pense qu'il y a beaucoup de conseillers dans le numérique dans la salle. Quand vous avez une personne âgée qui a de la difficulté à lire sur son écran, tout simplement, vous faites contrôle plus, vous augmentez la taille des caractères. Ça, en soi, c'est aussi une aide technique numérique. C'est une forme de paramétrage. Bon, nous, nos cerveaux, elles cherchent tout ce type de paramétrage à les concilier avec des aides techniques en plus physiques, si nécessaire, plus des logiciels spécialisés. La petite difficulté, je pense que je ne vais pas apprendre au conseil numérique notamment, il y a toujours des problèmes de compatibilité. Il faut savoir que est-ce que la commande modulaire va fonctionner sur Mac ou sur telle version de Windows parce que la personne a l'habitude d'utiliser tel PC, et ainsi de suite. Donc c'est extrêmement complexe pour un ergothérapeute en professionnel de santé de maîtriser ces informations-là. D'où la nécessité d'avoir des bonnes ressources, comme le nôtre, comme on l'a en France avec TechLab par exemple, ou CARPA ou Rotem. Donc on fait ce temps de veille. Et ensuite, on conseille et les professionnels et parfois les conseillers numériques qui nous demandent un an pour leur expliquer ben, tel outil permettra de débloquer telle situation. Et on conseille en général de démarrer tranquille, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de demain savoir qu'on manipule toutes les formes de situation de handicap, toutes les formes d'aide technique pour toutes les formes de situation de handicap. On peut démarrer simplement avec quelques aides, les maîtriser un petit peu, après plus en plus loin, avec un bon accompagnement.
Ok. Merci. Alors du coup, je vais faire juste un petit bref. On est à Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, il y a une base aérienne. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'avion. Mais il y a des décollages de rafales assez réguliers à Mont-de-Marsan et qui font du bruit. Alors je vais demander à un de mes collègues s'il veut bien monter le son de la sono pour qu'on entende bien Guillaume. Merci, c'est assez chouette. Et du coup, je vais revenir sur un point que tu évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi une mission dans l'association qui est une mission de réseau. Tu disais qu'effectivement, vous organisez une veille sur ces outils de compensation qui doit servir à l'ensemble de la communauté des professionnels, des utilisateurs. Aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas une mission obligatoire sur l'ensemble du territoire et on a cherché, suite à ton entretien, donc il y avait aujourd'hui, a priori, pas de pendant. Alors, là, je regarde la salle, peut-être il y en a un, mais il n'y a a priori pas de pendant en Nouvelle-Aquitaine de ce type de structure. Pour autant, vous jouez un rôle vis-à-vis, tu me le disais, des centres hospitaliers, des professionnels de la médiation. Enfin voilà, c'est vraiment aussi un rôle de coordination.
Alors, il y a un rôle de coordination qui est très important. L'idée, c'est d'éviter les ruptures de parcours. C'est très compliqué quand vous recevez un public de ne pas savoir vers où l'amener. Parce qu'à un moment donné, ben, on n'a pas forcément tout le matériel nécessaire, on n'a pas forcément toutes les compétences. Et la personne qui est parfois compliquée à amener vers un professionnel de santé, c'est de lui dire en plus, allez, maintenant vous allez aller à telle porte, telle porte et telle porte. Et à chaque fois, il y a 4 mois entre chaque prise de rendez-vous, le temps que l'accompagnement soit vraiment pris en charge, c'est voilà, pour la personne, c'est un calvaire, il y a souvent des ruptures de parcours. Il y a aussi la question du coût du matériel. Il faut savoir que bon, chaque personne sur son handicap a le droit à une enveloppe, si son handicap est reconnu par le DPH. Dans ces enveloppes, il y a les fauteuils roulants, il y a tout ce matériel-là, les aménagements de domicile. Il y a aussi les aménagements numériques. C'est des enveloppes à montant restreint, qui vont à peu près 15 000 euros tous les 10 ans. Si la personne elle dépense 10 000 euros sur une commande oculaire, parce que c'est pour certains c'est à peu près les prix, hein, que la commande oculaire finalement ne marche pas parce que ce n'est pas le meilleur outil, bon, c'est un peu compliqué. Or, bah, n'importe quel médecin peut le préconiser en soi. Mais quand il n'y a pas d'expert à côté, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce volet de réseau est assez important pour coordonner les acteurs qui ne savent pas nécessairement qui fait quoi et à quel moment. On est encore sur un creux autour du numérique. Il n'y a pas vraiment d'experts professionnels de santé et du numérique. Donc, chacun fait des petits bouts. Donc, il y a vraiment une importance à se coordonner. Et ce n'est pas forcément évident au quotidien. Il y a des questions régionales, départementales, chacun fait un peu à sa sauce. Chaque MDPH, notamment, fonctionne différemment aussi. Donc, on essaie de créer ce réseau au niveau national, mais on n'est pas encore là, mais ça avance.
Ok, donc voilà. Appel du pied, une place à prendre en Nouvelle-Aquitaine. On a évoqué ensemble dans le temps de préparation en fait, la volonté donc, des structures au sens plus large de s'impliquer dans la montée en compétences des personnes. Et donc notamment, tu évoquais, toi, 3 niveaux d'implication pour une structure qui souhaite organiser de la montée en compétences sur ces questions-là. Est-ce que tu peux revenir là-dessus?
Alors, pour nous, le premier niveau, c'est d'une part de s'informer. Je parle plutôt des structures de médiation numérique pour le coup. Hein. Alors, c'est un petit peu différent côté structures de santé. Le premier niveau, c'est de s'informer un minimum. C'est quoi une situation de handicap, etc. Pour pouvoir simplement communiquer sur ce que vous êtes en capacité de faire ou pas faire. Je précise, il n'y a aucune honte à dire ça, on n'est pas en capacité de faire. Prendre un exemple, je connais un lieu de médiation numérique sur Marseille, ils ont un local fourni par la mairie, le local il est au deuxième étage, il n'y a pas d'ascenseur. Bon, le local n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est pas un drame, on n'a rencontré personne qui s'est déroulé dessus par une personne en situation de handicap parce que le local n'est pas accessible. Il ne se passe pas rien. Simplement communiquez-le, ça évite encore une fois que potentiellement moi je vous envoie quelqu'un qui va se retrouver devant la porte et qui ne pourra pas monter. Ou là, ça devient une situation problématique. Donc, bien communiquer, vous avez des fiches qui existent, qui sont fournies par le ministère de la Santé, qui permettent de déterminer en disant, voilà, là, je coche telle case, ça c'est accessible, ça ne l'est pas. Première étape, une communication claire sur ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Vous allez aussi communiquer sur votre niveau de formation. Est-ce que vous avez juste une sensibilisation au handicap, c'est-à-dire que vous savez à peu près de quoi on parle? Est-ce que vous avez une formation un peu plus poussée? Dans ce cas-là, on va plutôt parler de notre MOOC, par exemple, qui est sur www.autonomie-numérique.fr. Là, le MOOC, ça prend 3 jours de contenu. Et avec ce MOOC, vous allez voir ce qui est possible en termes d'accessibilité numérique, l'étape d'après. Mais déjà, vous savez ce qui existe. Donc, si quelqu'un vient avec vous et utilise un joystick, vous n'allez pas forcément le bouger, vous savez comment l'accompagner. Vous allez être en mesure de l'intégrer dans un groupe collectif, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le niveau de formation. Puis aussi, la deuxième étape, hein, c'est de se former au fur et à mesure au fil de l'eau. Et je vous conseille plutôt de vous former effectivement au fil de l'eau, c'est-à-dire, faites en fonction des cas d'usage. Ça dépend beaucoup des groupes dans lesquels vous êtes, des communautés, etc. Si par exemple, vous êtes à proximité d'un foyer dédié avec des personnes déficientes intellectuelles, c'est intéressant d'aller vers eux, de vous former à cette situation de handicap-là précisément, de créer des groupes avec eux et de vous former en fonction. Et ensuite, progressivement, vous étendez. Si vous formez d'un coup, par exemple, vous suivez le MOOC dans son entièreté, qui couvre toutes les formes de handicap possibles, vous allez oublier des choses, c'est normal. Vous n'allez pas pratiquer, progressivement, vous allez oublier. Mais sur le petit fiche, vous allez dire, c'est bon, je suis formé à utiliser une commande oculaire. Bon, la réalité, c'est que vous ne vous en souviendrez plus. Donc, allez-y petit à petit. Allez vers les personnes, parce que, comme je vous l'ai dit, comme il y a pas mal de structures qui ne communiquent pas, les structures de personnes en situation de handicap ne vont pas aller vers vous, vos structures d'administration de mieux, déjà parce qu'ils ne connaissent pas en général, malheureusement. Et aussi parce que souvent, ils trouvent les portes fermées parce que finalement, la personne ne leur répond pas. Donc, communiquez là-dessus. Formez-vous au fur et à mesure, petit à petit. Allez-y étape par étape. Et au niveau de formation, pour aller plus loin, et l'étape d'après, ça va être filer du matériel et d'en posséder. Mais ça, je vous conseille de ne pas aller au petit bout dans la chance. Comme j'ai dit, le matériel coûte cher. Je ne vous conseille pas, en tant que structure de médiation numérique, demain, d'acheter 2 commandes oculaires à 10 000 euros pour chacune. C'est un investissement qui, honnêtement, ça ne vaudra pas grand-chose. Ça fera bien sur certains jours, mais sans plus. Donc, étape par étape, faites votre cartographie locale, et ensuite, achetez du matériel, et dans l'idéal, prêtez le guide. Nous, c'est ce qu'on commence à faire à l'échelle régionale. Il y a plein de techniques qui dorment dans les placards. Des hôpitaux qui ont acheté pour un patient qui malheureusement est décédé, ou sa situation s'est rétablie parce que c'est une maladie temporaire. La technique finit dans un placard, elle n'est plus réutilisée. Bon, ben, nous, on essaie de la récupérer, on la redonne à une autre patiente qui en a besoin. Ça, progressivement aussi, vous pouvez vous concerter pour vous dire, moi j'ai tel joystick qui peut être utilisé, moi j'ai tel clavier avec un roller qui peut fonctionner pour tel type de handicap. Le faire savoir et vous échanger ce matériel-là, vous y gagnerez fortement en économie et vous gagnerez d'autres types de public.
Du coup, je rappelle, parce que ça a un peu assuré, donc l'association propose un MOOC, un contenu de formation complet en ligne et disponible gratuitement. Donc, et sur le site www.autonomie-numérique.fr. Tu me confirmes, je n'ai pas dit de bêtises.
Exactement, c'est ça.
C'est important parce que je vois des gens noter dans la salle. Donc, autonomie-numérique.fr.
Je vous conseille, c'est un MOOC qui a été construit pour 2 cas d'usage. Le premier, vous êtes vraiment dans la situation où vous devez accompagner quelqu'un dans l'urgence. Vous avez une personne qui est malvoyante, vous n'avez jamais accompagné ce type de public, vous pouvez aller sur l'index de ce MOOC, c'est trié par situation de handicap. Vous allez sur l'index malvoyance, vous allez voir toutes les pages qui traitent de cette situation de handicap, qui permet de régler le souci immédiatement. Et vous avez l'autre version qui veut vraiment faire la totalité du montant, une vision d'ensemble de ce qui existe sur le marché. Là, je vous préviens, ça prend quand même, si vous voulez le faire sérieusement, entre 2 à 3 jours, selon votre rythme. Donc c'est un certain investissement quand même. Et là, vous faites dans l'ordre, si possible, on a créé une forme de logique. Pensez simplement que le MOOC n'a pas été fait dans cet ordre-là par type de handicap, mais par situation problématique se rencontrer sur le terrain. C'était beaucoup plus logique, sinon, ça faisait beaucoup de robotics. Évidemment, commencez par le 1, c'est celui qui vous apprend à communiquer, à vous placer en tant qu'acteur de la médiation numérique pour ce type de public.
Merci. Alors du coup, on a vu, bon voilà, la formation dans l'accueil et la médiation, elle est importante, mais pas qu'à cet endroit-là. Elle est aussi importante au niveau de la conception des outils, pour le coup. Et Audrey, effectivement, je t'invite à prendre un micro, puisque c'est de ça dont on va parler. Alors, peut-être pour commencer, donc tu le disais tout à l'heure, tu représentes la SCOP Access 42. Donc là aussi, je veux bien, si tu veux, nous présenter la SCOP, ce que vous faites, et puis peut-être ton parcours brièvement aussi.
Ok. Du coup, je reviens. Donc, on est une SCOP Access 42. Aujourd'hui, on est 26. Comme je disais, on est spécialisé en accessibilité numérique. Donc, on est plutôt, on est très sur la conformité. On est moins proche des usagers. Nous, on travaille avec un document qui s'appelle le RG2A, qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui est le référentiel français d'accessibilité numérique. C'est tout un ensemble de règles et de techniques pour s'assurer qu'un site web respecte certaines règles de base pour fonctionner notamment avec des technologies d'assistance comme ça vient d'être présenté. Et donc nous on fait des audits par rapport à ce référentiel, on fait aussi de la formation, beaucoup de formation, hein. On forme beaucoup de gens parce que c'est vraiment l'essentiel. Les audits c'est intéressant, maintenant le plus important c'est qu'à la base ce soit fait correctement et donc il faut que le savoir se propage. Et c'est pas un savoir très compliqué une fois qu'on rentre dedans, c'est pas si compliqué que ça. Donc vraiment la formation c'est presque le cœur du problème de l'accessibilité numérique. Hein. Que les gens ne soient pas formés, ne le sachent pas. Très souvent, ce n'est pas un problème de volonté ou d'intérêt pour le sujet, c'est vraiment un problème de méconnaissance et de formation sur l'accessibilité numérique. On forme du coup des profils développeurs, développeuses, chefs de projet, on forme aussi des auditeurs et des auditrices, et puis voilà, des contributeurs, ou tout ce qui est contenu éditorial. Enfin, je dis nous, après, c'est des formations aussi qui se retrouvent par ailleurs dans d'autres sociétés. Hein. Et ça c'est très très important que ça parte de la base et que les gens qui conçoivent, qui créent et qui contribuent régulièrement soient formés.
Alors, du coup, c'est important ce que. Vas-y, je t'en prie. C'est important ce que tu disais, puisque en fait, ça renvoie à la question justement du périmètre, de ce qu'on doit traiter, puisqu'on pourrait croire que c'est qu'une question de développeur. Oui, voilà, c'est important dans la conception, dans le code, pour que ce soit accessible, mais pas exclusivement. On a aussi des questions relatives à la rédaction, aux documents qu'on va fournir.
C'est ça. Il ne faut pas tout faire porter sur la pauvre équipe de développement, qui a souvent beaucoup souffert de porter le sujet toute seule. C'est vraiment un sujet qui touche à tout, qui touche au chef de projet. Parce qu'il faut gérer les temps, parce qu'il faut gérer des budgets. Donc forcément, à un moment, si on décide de déprioriser certaines fonctionnalités ou certains axes de développement, bah, les équipes de développement, elles font ce qu'on leur dit de faire. C'est aussi le rôle des personnes qui contribuent, qui font la contribution éditoriale. Donc bah, une fois que le socle est fait, on a un site web ou une application mobile qui est conforme aux règles d'accessibilité, c'est super. Et demain, on va publier un article. On va mettre une photo, une image, peut-être qu'il faut donner une alternative textuelle pour les personnes aveugles à cette image. On publie une vidéo, peut-être qu'il va falloir créer les sous-titres qui vont avec cette vidéo. Tout ça, c'est plus du ressort de l'équipe de dev, hein. C'est bien du ressort des personnes qui font l'édition du contenu, qui font l'alimentation du contenu, les fichiers bureautiques, alors ça c'est un grand sujet, les PDF. Et tout ça, il va falloir effectivement que ce soit conforme, et donc il faut que les personnes qui contribuent à la création de ces contenus soient formées, ou on pourrait imaginer un autre dispositif avec des références sur ces sujets-là aussi, etc. Et point important, du coup aussi, c'est que quand on a un projet de construction d'un site web ou d'une plateforme de diffusion, d'actualité ou quoi que ce soit, on va choisir un outil, hein, on va dire je vais prendre tel outil pour la refonte du site web de la commune. c'est essentiel d'aller poser la question, est-ce que l'interface qui va permettre à mes gens de contribuer, elle permet de définir les propriétés d'accessibilité dont les utilisateurs ont besoin? Est-ce que le lecteur vidéo, il me permet d'incruster des sous-titres ou pas? Est-ce que je peux mettre des alternatives à mes images avec l'outil qu'on est en train d'installer? Et ça, c'est super important quand on établit le cahier des charges, quand on va venir acheter ou faire un appel d'offres ou demander la création d'un nouveau site web ou d'une appli. C'est toutes ces informations-là, elles sont très importantes au-delà de l'aspect front, enfin, de l'aspect public. C'est derrière comment on peut, on a ce qu'il faut pour faire l'accès. Ça, c'est important.
Bon, du coup, là aussi en préparant, moi j'ai posé une question d'une naïveté touchante, là où tu m'as dit non, et j'ai dit c'est pas grave, je vais la poser quand même en public. Est-ce qu'on peut considérer le discours RGA comme une opportunité pour leurs organisations comme valable?
Oui, la question, je suis un peu partie au quart de tour, la question c'était de dire est-ce que l'accessibilité numérique c'est une opportunité pour les organisations? Et du coup, je suis un peu partie en disant que c'est surtout une opportunité de faire ce qu'il est moralement juste de faire, c'est-à-dire de faire respecter le droit des personnes handicapées, et qu'au-delà, en fait, de cette opportunité, il n'y a pas vraiment, enfin, de mon point de vue, et c'est la ligne chez Access 42, il n'y a pas vraiment d'autres opportunités. Je suis partie un peu vite parce que dans notre milieu, enfin, surtout dans l'accessibilité numérique, et d'autant plus aujourd'hui, pour peut-être celles et ceux qui savent, on a une échéance qui arrive le 28 juin 2025 avec une nouvelle loi qui entre en jeu. On voit fleurir pas mal de sociétés qui se proclament spécialistes en accessibilité numérique et pourquoi pas. Et on a des discours qui sont très axés sur les bénéfices induits de l'accessibilité numérique, puisque on va vous dire que l'accessibilité numérique, ça sert les personnes handicapées et ça devrait juste être suffisant pour dire qu'il faut le faire. Mais les discours qu'on va trouver, c'est souvent que non, c'est pas suffisant, il faut que ça bénéficie à tout le monde, hein, pourquoi qu'aux personnes handicapées, voilà, donc ça déjà c'est problématique. Ou l'accessibilité numérique, c'est bien, ça va vous rapporter des sous, parce que du coup vous allez avoir plus de clients qui vont accéder à vos sites web, bon, là c'est plus pour le privé, ce qui est partiellement sinon totalement faux quand on sait que la population handicapée, c'est la population qui est... qui a plus fort taux de chômage par rapport à la population dans son ensemble, donc c'est pas forcément la population qui va le plus acheter sur les sites e-commerce, par exemple. Et donc voilà, donc c'est pour ça, il y a pas. Mais après, j'y ai réfléchi hein, quand même. Et moi, il n'y a toujours pas d'opportunité, il n'y a pas de bénéfice induit autre, mais en fait, ça boucle peut-être un peu avec d'autres éléments qu'on va évoquer, mais pour moi, l'opportunité, elle est surtout sur comment on réfléchit pour faire quelque chose en commun, tous ensemble. Parce que l'accessibilité numérique, non plus ça rapporte pas d'argent, ça en coûte. Donc il n'y a pas de retour sur investissement quand on paye de l'audit d'accès ou qu'on va faire du développement accessible, ça rapporte pas d'argent, on le fait, c'est tout. Et donc c'est comment on fait pour rationaliser ces budgets, et plutôt c'est comment on fait pour faire en commun des outils. Hein, on parle de site web, mais en fait la loi, elle touche aussi les outils et les outils métiers. Pour les personnes qui travaillent et qui sont potentiellement handicapées ou qui vont devenir. Et donc, c'est comment on fait pour demain avoir des outils métiers pour nos salariés qui sont accessibles. Comment on arrête d'acheter des solutions qui sont toutes cassées et que personne en situation de handicap ne peuvent pas utiliser. Et du coup, comment on se regroupe peut-être à plusieurs pour faire quelque chose qui soit utilisable. Voilà. Tu vois,
mais du coup, c'est dans la démarche, effectivement. Alors justement, ça fait lien un peu après avec la question d'après, c'est que la démarche aussi, elle doit mobiliser les utilisateurs des solutions. Et alors je crois que là-dessus, sur Access 42, vous avez travaillé avec un panel d'utilisateurs, tu vas me corriger, je le sens et tu fais bien, dans certaines situations.
Oui, c'est intéressant parce que ça me permet d'aborder le point qui est... chez Access 42, on travaillait beaucoup jusqu'à maintenant sur ce qu'on appelle la conformité. Donc on a un référentiel qui est l'URG2A. Alors pour ceux qui connaissent un peu plus, on a une norme internationale qui est WCAG, et puis on a même une norme européenne maintenant depuis 2016 qui est la norme EN 301-549. et, Et donc, c'est du normatif, on a des critères avec des principes très arrêtés qu'il faut respecter, et c'est comme ça qu'on va déclarer, hein, c'est la nécessité. Il faut calculer à un moment comment on déclare un site qui est conforme, il nous faut des règles pour calculer, pour savoir que oui, c'est bon, tu respectes la loi. Donc, on a des critères, etc., etc. Maintenant, ces critères, ils sont parfois très génériques, et puis très globaux, ils ne sont pas toujours très adaptés, forcément aux situations personnelles des uns et des autres, des personnes handicapées. Donc on a cette conformité qui dit, ok, tu as un socle de base qui est conforme, on a des règles, il faut des alternatives aux images, des sous-titres, des contrastes de couleurs, etc. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'accessibilité, hein, c'est pour ça qu'on insiste toujours, c'est bien un taux de conformité qui est demandé par la loi et pas un taux d'accessibilité, c'est la conformité à la norme. Et l'accessibilité, c'est quoi l'expérience des utilisateurs handicapés de ces sites qui sont maintenant conformes, comment ça marche? Et du coup, on a voulu explorer ça chez Access 42, qu'on a commencé à travailler sur des modalités de test utilisateurs, donc recruter des personnes qui seraient intéressées pour mener des tests utilisateurs sur différentes modalités, des focus group, parce que parfois juste, c'est-à-dire des discussions avec les personnes pour, au moment de la conception des projets, ce qui est beaucoup plus intéressant qu'une fois qu'on a développé quelque chose qui n'est pas bon, c'est vraiment récolter leurs besoins, que ce soit des besoins en termes de perception, même en termes de navigation, lorsqu'elles utilisent des technologies d'assistance, nous dire, ben voilà, moi, s'il y a un menu avec trop de liens, ça va être très compliqué, et du coup, on peut anticiper comme ça dans les conceptions comment on va pouvoir arranger des choses pour que ce soit plus pratique. Donc oui, on a commencé, ça fait un an et demi qu'on est sur un projet, on a commencé à faire nos premiers tests utilisateurs, et c'est très riche, et on a un projet de continuer pour justement aller plus loin, notamment nous-mêmes dans notre travail d'auditeur quand on fait des audits, parce que, comme je disais, la conformité, nous quand on rencontre un problème sur un site web, voilà, l'alternative n'est pas présente, on va donner une solution de correction, mais en vérité, pour résoudre un problème, on peut avoir 10-15 solutions de correction possibles. Et il n'y a que les utilisateurs qui sont en mesure de nous dire laquelle est la meilleure. Parce que quand on est valide, voilà, enfin, on a nos règles, nos grilles de lecture, nos grilles de test, mais on n'a pas la capacité à savoir quelle est la meilleure solution. Et du coup, on aimerait pousser ces tests utilisateurs pour améliorer des recommandations et des correctifs.
On s'était dit du coup à ce stade-là qu'on ferait un petit point sur où est-ce qu'on en était en termes de conformité. Bon, là où je vais trahir que j'avais vendu la réalisation d'une slide sur une diapositive, non, moi j'ai vendu, ouais, sur l'état des lieux des 250 services qui sont testés par la DINUM. Alors j'ai pas.
T'as fait la slide ?
Non, mais j'ai pas procrastiné, j'ai les chiffres.
Ah, mais moi aussi, peut-être qu'on n'a pas les mêmes parce que le site marchait pas très bien hier.
Bon, l'idée c'est que voilà. C'est qu'on avait vérifié effectivement la DINUM, la Direction interministérielle au numérique, teste les 250 démarches. Alors, je te laisse préciser.
C'est pas la DINUM qui teste, en fait. Il y a 250 démarches qui sont désignées par la Direction interministérielle du numérique qui est en charge, du coup, notamment de la mise à jour, enfin, du maintien de notre référentiel, du RG2A. Elle a identifié 250 démarches essentielles parmi plein d'autres démarches de l'État français, desquelles elle exige qu'il y ait un travail qui soit fait sur l'accessibilité et puis sur d'autres choses, hein, il y a d'autres critères. Et ils ont un site web qui s'appelle « Vous cherchez l'Observatoire des démarches de l'État », je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée. Mais vous cherchez DINUM et démarches essentielles, vous trouverez. Et il y a 250 démarches qui sont listées. Enfin, hier soir, il y en avait 244 ou 247 selon l'heure de connexion, je ne sais pas. Et il y a plusieurs critères, dont celui d'accessibilité. Donc, ce n'est pas la DINUM qui évalue. En fait, c'est les entités qui sont en charge de ces services qui publient leur déclaration d'accessibilité. Parce qu'en fait, ça fait partie des obligations de la loi. Au-delà d'être conforme, il y a des obligations déclaratives et notamment publier une déclaration d'accessibilité. Ils récupèrent les chiffres de là et ils publient ces chiffres-là. Voilà. Et hier, il y en avait 4 à 100% de conformité. Pareil, 7 selon l'heure.
Ouais, ben voilà.
T'as eu 7
7. Moi, j'en avais 7, effectivement, ce qui représente 3%. Mais surtout, le plus impressionnant, c'est 78 qui ne le sont pas du tout.
C'est vrai.
Voilà. 78 démarches essentielles qui ne, aujourd'hui ne sont pas du tout. Ça veut dire que sur un taux de conformité qui est calculé sur 100, du coup, on était en dessous de 50%.
Ah. Voilà. Et que sur 250 démarches.
Et que sur 250 démarches, dans lesquelles on va retrouver, par exemple, acheter un timbre fiscal, rendez-vous pour une carte d'identité, enfin pour un papier d'identité. Donc on parle vraiment de démarches essentielles à la citoyenneté. Ça laisse.
Non, je dis ça va, sans la slide, on s'en est sorti.
Oui, ça, c'était pas trop mal. Du coup, je veux bien qu'on revienne quand même rapidement. Tu as évoqué rapidement les contenus, effectivement, aussi, et l'impact que ça peut avoir sur les personnes, et comment aussi dans les organisations, c'est bien de sensibiliser, de rappeler ce travail sur les contenus, sur comment est-ce qu'on doit aussi rédiger, intégrer des contenus qui soient conformes, et comment est-ce que là aussi, dans nos organisations, nous, on peut s'y préparer.
À rédiger des contenus conformes, comment s'y préparer, se former. Ça, c'est évident. Se former et au-delà de ce... Je dirais qu'il faut mettre en place des guides. C'est des choses qui sont hyper pratiques et hyper pérennes. Et créer des guides éditoriaux, créer des modèles de documents. Enfin, c'est vraiment des trucs très basiques. Hein. Si on en parlait quand tu me parlais d'opportunité, je te disais on fera rien d'innovant. Enfin, moi, je te vendrai pas l'innovation avec l'accessibilité numérique, parce qu'en fait, ça, c'est très basique, l'accessibilité numérique. Ça reste des alternatives d'image. Alors, j'ai pas toujours la même chose, mais en réalité, c'est toujours la même chose. Moi, depuis 15 ans que je fais des audits, je relève toujours les mêmes erreurs, ça change pas. Les frameworks ont beau évoluer et faire des choses très waouh, c'est toujours les mêmes choses qu'on relève. Donc, on fera pas l'innovation, en tout cas sur la conformité en accessibilité numérique. Donc, c'est ça, faire des guides et partager des bonnes pratiques, faire des modèles, documenter. C'est particulièrement ça, quoi. Particulièrement ça.
Pour le coup, donc on arrive vers la fin, parce qu'on s'était dit une heure, c'était relativement court. Et on s'était. Enfin, moi, je vous avais proposé une conclusion alors avec deux questions. La première de ces deux questions, c'était à vous trois. Une question qui vient d'un syndicat mixte, d'une collectivité territoriale, qui est, selon vous, le rôle des collectivités et des organisations publiques dans ce travail de conformité. Je ne sais pas lequel de vous trois veut se lancer, peut-être Pierre-Olivier, pour te réchauffer.
Là, moi, je suis en train de refroidir. J'ai mon sous canicule, on l'a ça. J'aurais des éventails. C'est compliqué parce que j'ai l'impression que souvent, quand même, on demande beaucoup aux collectivités territoriales, à la fonction publique, soyez exemplaires, c'est toujours ça en fait. Mais peut-être que mon souhait, effectivement, ça serait que les collectivités territoriales continuent à faire les efforts, montrent l'exemple et développent toutes les accessibilités numériques, mais pas que. Permettre l'accès en fait aux services et à l'emploi. Alors il y a tout un tas d'efforts et de projets qui sont déjà en place. Il faut aller comme on est en 2.0, il faut aller step up hein, un petit peu. Donc ça serait mon vœu. Je voulais juste rebondir, je ne l'ai pas fait parce que mais c'est dans le bon sens. Hein. Effectivement, rendre les choses accessibles, c'est pas des innovations. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Historiquement, tout ce qui a été rendu accessible et les progrès qui ont été faits pour les personnes en situation de handicap, in fine, ont servi à tout un chacun. Et ça aussi, hein, ce sont des grandes vérités, mais ça a à voir en tête lorsqu'on parle d'accessibilité, d'évolution. Ça nous sert à tous. Et autre chose que j'avais prévu, j'ai oublié de dire. Ça peut tous nous concerner, le handicap, la nécessité d'accessibilité, puisque si on j'aime les stats, ça me parle. 15% des handicaps le sont de naissance. Donc vous êtes fort en maths, ça veut dire que 85% des handicaps sont acquis au cours de la vie, dont la vie professionnelle. Donc tous les normes d'accessibilité ou les efforts d'accessibilité peuvent à un moment donné nous être utile pour poursuivre nos carrières et nos vies de manière normale, comme tout bon citoyen, il n'y a pas que pour les autres.
Je vais proposer à Guillaume, comme ça je laisserai à Audrey le soin de finir sur cette question. Guillaume, pour toi.
Alors moi, j'aurais deux conseils à leur donner. Le premier, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de ne pas trop fonctionner en silo. C'est-à-dire de ne pas dire que l'accessibilité numérique du site, c'est uniquement le problème de la DSI, du service informatique. Enfin, ça va concerner à peu près tout le monde, du moment quelqu'un va créer un PDF. Donc il faut former un peu tout le monde, le service de com aussi, certains chargés de projet, etc., à cette démarche-là. L'autre volet, c'est de s'appuyer sur les compétences déjà existantes sur le territoire, de les valoriser, de ne pas toujours chercher à recréer un nouveau service, un nouveau silo supplémentaire. Par exemple, on a, je pense, des conseillers numériques qui seraient ravis d'avoir une visibilité un peu plus concrète sur leur poste à venir, et qui, je pense, pourraient, du moment qu'ils sont formés.
Je crois très belle piste effectivement pour l'avenir des médiateurs et des conseillers numériques que de s'investir sur ces sujets-là. Et du coup, Audrey, en plus je crois qu'Audrey, toi tu avais un exemple positif à évoquer. Alors pas de collectivité, mais de quelques sites de collectivité et au niveau national.
Si, j'en parlais avec des personnes rencontrées ce midi encore. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que. Moi, je dirais qu'il faut effectivement se regrouper et faire des choses en commun pour essayer de rationaliser et de rendre pérenne tout ça. Moi, je le vois dans mon métier, on fait des audits qui durent une semaine, ça met 6 mois à être corrigé, et puis un an après, le site, il est refondu. Ça n'a plus trop de logique, il y a un problème. Et donc, l'idée, c'est de plutôt porter ce message qu'il faut se regrouper, on fait les choses ensemble, on ne fait pas les choses en silo non plus, on essaie de mutualiser les moyens financiers, les moyens humains. Oui, j'ai deux exemples très parlants qui marchent bien. Il y a le gouvernement lui-même, il a lancé son système de design du gouvernement, donc tous les sites des ministères sont appelés à passer sur ce système de design pour tous leurs sites web. Un système de design, c'est un ensemble, une sorte graphique, des composants interactifs, etc., des présentations de pages de sites web qui sont créées par le service de communication du gouvernement, qui sont conformes aux règles d'accessibilité numérique. Donc quand les ministères embarquent ce système de design sur leur site web, ils ont déjà toute la structure qui est conforme. Et le travail de base, il est fait. Il est fait. Et donc déjà, ça, c'est un gain énorme. C'est un gain énorme. Donc ça, c'est vraiment un bel exemple de mutualisation. C'est plutôt intelligent, pour le coup, d'avoir fait ça. On a un deuxième exemple, qui est la communauté d'agglo du Pays Basque. Donc on connaît bien chez Access42 parce qu'on a travaillé avec eux, qui ont développé une usine à sites, peut-être certains ou certaines connaissent, qui s'appelle Elgar Web. Donc ils ont créé une structure de site web qui respecte les règles d'accessibilité numérique, donc qui est conforme au RG2A. Et puis il y a plein d'autres thématiques qui ne concernent pas, mais l'éco-conception, etc. Du coup, la communauté d'agglo propose à chaque commune de s'emparer en fait de ce gabarit et de faire un site web à partir de ce gabarit-là. En respectant une charte simplement, en disant ok, à condition que si vous prenez un prestataire pour déployer le site web, il faut que le prestataire il soit formé à l'accessibilité et vous vous engagez en plus à publier une déclaration d'accessibilité sur le site web. Donc là c'est pareil, on a un bel exemple de mutualisation, ils ont vraiment travaillé pour offrir un outil qui va permettre à toutes les communes, et notamment celles qui n'ont pas les moyens forcément, de développer quelque chose qui soit conforme par défaut.
Ok, merci. Alors pour le coup, moi je ne peux pas faire l'économie de rappeler quand même qu'on travaille, enfin moi je travaille dans un syndicat mixte qui propose aussi de la mutualisation et à l'accessibilité et à la conception conforme des sites internet. Donc effectivement c'est un exemple, voilà, la mutualisation qu'on retrouve et qui doit se déployer un peu partout sur les territoires. La dernière question, et parce qu'il nous faut conclure, c'était le vœu. Voilà, on avait des législations voilà, qui adviennent sur l'avenir de la question de, voilà, de
Je ne sais pas si c'est un vœu ou une perspective, parce que ça a déjà démarré, mais au-delà de l'accessibilité, c'est impliquer les personnes elles-mêmes dans l'accessibilité. Par exemple, on parlait de l'éther, c'est vrai qu'on aime bien lui taper dessus, parce que c'est facile, c'est conceptuel parfois. Mais là, par exemple, il sollicite des personnes en situation de handicap pour rendre ou sécuriser l'accessibilité de leur site qui s'appelle monparcourshandicap.gouv.fr. Ils sollicitent des personnes, des associations de personnes en situation de handicap pour mesurer les écarts ou en tout cas le rendre accessible à l'ensemble des personnes en situation de handicap. Donc ce qu'on appelle l'utilisateur, le UX design, c'est la version 2.0 ou 3.0, mais je trouve que c'est une bonne solution donc, de mobilisation des personnes elles-mêmes parce que on n'a pas la science infuse. Il y a autant de besoins d'accessibilité presque que de personnes. Donc, allons chercher les réponses là où elles se situent plutôt que de penser qu'on peut inventer.
Guillaume, tu avais un vœu à formuler ?
Je ne sais pas si c'est un vœu, peut-être une incitation pour votre territoire. Et de dire que, comme Provence, c'est parti d'une idée. Ça a été compliqué parfois, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, malgré tout, 25 ans après, on est toujours existant. On n'a pas d'agrément ARS ou ce genre de choses, on est juste une association qui a une volonté particulière de vouloir proposer un service pour ces usagers-là. Pourquoi pas vous demain, du moment que vous avez la volonté de vouloir proposer ce type de service, et si besoin de vous aider, il n'y a aucun problème à nous solliciter, nous ou d'autres structures qui font à peu près la même chose.
Et on te laisse la lourde responsabilité du mot de la fin.
Moi, le vœu, c'est plus que ça progresse encore. Moi, du coup, même si le bâton, la carotte, ça ne marche pas, moi, j'espère juste que la pression réglementaire va continuer, parce que malgré tout, c'est un levier très important, puisque dès lors qu'on parle de droit et qu'on insiste dessus, il n'y a pas trop de discussions possibles sur le fait de faire ou pas faire, c'est un droit, point. Donc, voilà, j'espère que la pression réglementaire, et notamment avec ce qui arrive le 28 juin 2025, ça va permettre de continuer à faire progresser l'accessibilité numérique.
Merci beaucoup, merci à nos trois intervenants. Un bref mot sur la suite du programme. Donc, ici même, ou peut-être à côté, l'Agence nationale de cohésion des territoires présentera les outils de la médiation numérique que sont la coop et les bases. Ici aura lieu donc un temps autour de l'accessibilité numérique, et donc vous pourrez poser davantage de questions à Audrey, mais pas tout de suite, dans un deuxième temps. Visiblement, ça a changé. On découvre des choses. Et puis enfin, pour les très courageux qui ont décidé d'aller à Nonnerre, donc on va partir à Nonnerre, il fait extrêmement chaud, me dit-on. Donc on va se réunir là-bas sous le porche pour voir dans quelles conditions...